Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétiens d'Orient sur France Culture, nous allons tenter de cerner l'imaginaire des chrétiens en Orient, entre poésie, mystique et politique aussi, avec l'invention de références identitaires. Nous verrons d'ailleurs que l'influence occidentale n'y est pas complètement étrangère. Pour cet échange, je suis avec Antoine Fleffel, théologien et philosophe, chercheur passionné de ses racines. Vous êtes, cher Antoine, aussi le fondateur de l'Institut Chrétien d'Orient, avec le soutien de l'œuvre d'Orient, dont je salue ici l'initiative et son engagement sans relâche auprès des chrétiens, et qui œuvre aussi pour la préservation de cette mosaïque dans toute cette diversité. Je fais référence là aux écoles, particulièrement au Liban, pays dont vous êtes originaire, et l'œuvre d'Orient et d'autres institutions aussi, et le gouvernement français par le ministère des Affaires étrangères soutiennent pour assurer justement cette diversité. Bonjour Antoine Fleffel.
Bonjour Sébastien.
Alors votre analyse se fonde sur l'expérience, sur vos lectures, sur votre foi, sur votre connaissance intime de ces communautés orientales, je le mets volontairement au pluriel. Vous êtes inspiré par les mystiques, vous parlez de Saint Charbel, vous parlez de Grégoire de Nice, sans parler des orientaux non chrétiens comme Rumi par exemple, mais nous sommes au-delà de la confession avec ce genre de personnages. Cet imaginaire chrétien d'Orient nous intéresse et nous interpelle. Quel est-il ?
Je suis né dans cet imaginaire. Il est très bien que vous ayez évoqué tout à l'heure les écoles chrétiennes. Je suis un produit de ces écoles chrétiennes qui ont été développées d'une manière soutenue au XIXe siècle et qui ont transmis la culture occidentale, notamment par le biais français, en ce qui me concerne, avec les idées et catholiques et de la Révolution et de la liberté, et ces idées qui poussent les peuples à se déterminer, à s'affirmer, à se créer une identité. Je suis un produit de cela. Certains regardent cela d'un mauvais œil, en disant instrumentalisation, construction. On peut être conscient de cette dimension très historique, très humaine et très politique. Néanmoins, toute cette rencontre des cultures a produit aussi quelque chose, parce que les gens qui ont reçu ça l'ont fait le leur et ont créé autour de ça une identité. C'est à ce croisement d'identité, de civilisation, d'espace, de géographie, que ces communautés chrétiennes cherchent à se positionner dans la société et à se poser la question de qui elles sont, ce qu'elles peuvent apporter et quel statut elles peuvent avoir sur le plan politique, sur le plan culturel ou sur le plan économique.
Antoine Fleffel, vous êtes un esprit libre, vous êtes un esprit profondément ouvert à la rencontre, ce qui fait partie aussi de votre expérience. Quand vous allez nous expliquer en quelques mots ces références identitaires, on va rentrer dans un aspect politique, est-ce que vous n'allez pas vous faire des ennemis parmi ces communautés chrétiennes ?
Peut-être que certains discours peuvent déranger, néanmoins la situation actuelle ne permet pas l'animosité sur ce plan. Parce que les chrétiens, du moins à partir du XIXe siècle, ont cherché à se créer des identités. Et vous le disiez tout à l'heure, l'Occident y a participé. Je pense aux archéologues français, britanniques, je pense aux romantiques, je pense aux philosophes, qui ont exhumé un passé reconstruit, un passé qui met en évidence l'héritage phénicien, l'héritage des pharaons, l'héritage de la Syrie. Nous sommes dans une époque où les nationalismes sont en pleine ébullition au XIXe siècle, avec le nationalisme grec, puis le nationalisme arabe, qui est aussi, dans ses débuts, une invention chrétienne. Donc, au sein de tout cela, on a cherché à créer des identités, car avant, on baignait dans ce grand empire ottoman où l'identité se fondait dans la communauté religieuse ou dans l'appartenance à l'empire d'une manière plus large. Alors que d'une manière politique, on s'est créé cette identité et on s'y est tenu. À chaque fois que les chrétiens se sentaient submergés ou étouffés par une identité islamiste, comme par exemple celle transmise par les frères musulmans, ils ont cherché à se distinguer en disant « Non, moi je suis phénicien. Non, moi je suis copte, je suis le véritable habitant de l'Égypte. Non, moi je suis assyrien, je ne suis pas arabe. » Des identités politiques créées pour souligner sa nuance, sa marque et son rôle dans la société. Et sur ce plan, il n'y a aucun mystère. Depuis le 19e siècle au moins, je ne voudrais pas remonter plus loin, les chrétiens, quelle que soit leur contrée ou leur communauté, sont en quête de citoyenneté. Chose qui fut théoriquement acquise à l'Empire ottoman, après la guerre de Crimée, le traité de Paris, durant les Tanzimats, après 1856, cette date qui marque la naissance de l'œuvre d'Orient. Cette citoyenneté, cette égalité avec l'autre, non seulement dans le but de dire « je suis ton égal », mais dans le but de construire avec lui la cité, de regarder avec lui l'avenir, d'avoir une rencontre enrichissante pour donner et recevoir. C'est ce que les chrétiens d'Orient cherchent depuis à faire. Ainsi se sont-ils parfois réfugiés ou ont-ils construit des identités, celles que je viens de citer. Mais aujourd'hui, peut-être que pas beaucoup de personnes seront fâchées avec moi si je parle de la construction de ces identités, parce que ces identités sont aujourd'hui épuisées. Le contexte qui les a vues naître, ce contexte qui s'est transformé, donc de l'Empire ottoman à la naissance du Proche-Orient moderne après la Première Guerre, ce contexte fut pour eux un contexte d'engagement et d'inscription. Ils ont été là, les indépendances de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, furent des militances islamo-chrétiennes, l'inscription des chrétiens dans la cause palestinienne, dans la construction de la Jordanie. Ils étaient tous là. Sauf que cette tentative ou ce projet de s'inscrire dans ces sociétés pour créer des sociétés plurielles, démocratiques, humaines, semble avoir échoué. Nous sommes en 2024 et nous constatons aujourd'hui les effondrements qui touchent les différents pays. L'effondrement du Liban depuis plusieurs années, la Syrie avec sa guerre meurtrière, l'Irak encore avant la Syrie. Nous voyons la situation dans ce qu'on appelle la Terre Sainte, en Israël, Palestine, une situation dramatique. Le projet, le rêve de ces chrétiens de créer ces espaces pluriels et démocratiques sont des rêves qui, de toute évidence, s'effondrent s'ils ne sont pas déjà effondrés. Mais si je mentionne tout cela, ce n'est pas pour dire qu'il faut ranger sa valise et partir, mais c'est pour dire que ces identités ont été ce qu'elles ont été et qu'il faut penser les choses autrement et qu'il faut peut-être se poser aussi la question de la véritable identité du chrétien. Se résume-t-elle dans une identité historique, qu'elle soit construite, qu'elle soit héritée, qu'elle soit souhaitée, qu'elle soit le fruit d'une instrumentalisation, ou se fonde-t-elle dans quelque chose de beaucoup plus profond, ce qui transforme vraiment la terre et ce qui transforme vraiment l'être humain? C'est dans ce sens que les chrétiens d'Orient devraient aujourd'hui se poser la question de l'identité.
Alors on comprend qu'après les idéologies, les États-nations ne sont plus suffisants pour contenir ce désir identitaire, des États-nations qui sont partagées, qui sont divisées par les extrémistes. On comprend aussi, en vous écoutant et en vous lisant, que les églises actuellement ne sont pas forcément capables aussi de porter cet imaginaire chrétien. Je fais référence à quoi ? Je fais référence à la perte de connaissances, à l'absence d'éducation aussi d'un clergé qui fait ce qu'il peut dans le contexte actuel, bien entendu un contexte compliqué, tendu, un contexte de diaspora aussi où les communautés chrétiennes d'Orient se recomposent à l'étranger, donc il faut apprendre des nouvelles langues, une nouvelle culture. On sent cette fragilité, cette instabilité. Qu'est-ce qui peut amener justement des intellectuels peut-être comme vous à recomposer ce besoin d'imaginaire ?
Premièrement, tout est à faire sur ce plan. Vous avez bien fait de distinguer la terre d'origine et la diaspora, parce que ce sont deux problématiques, malgré leur lien, qui sont différentes. En terre d'origine, aujourd'hui, nous n'avons pas de projet, comme Église, avec S, je le dis. Même s'il y a de beaux discours, il y a beaux souhaits qui sont exprimés à travers telle occasion ou telle autre, mais il n'y a pas une feuille de route. Et la feuille de route répond à la question, toi chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde ? Il n'y a pas de feuille de route. Les églises sont dans des postures défensives. Au Liban, on est en train de chercher les droits des chrétiens. En Irak, on est en train de compter combien de chrétiens il y a encore ici. En Syrie, on se lamente de la situation des chrétiens partagés entre deux régions, une sous le contrôle des milices kurdes et une autre sous le contrôle du régime syrien, avec des identités différentes. Aujourd'hui, on se demande combien de chrétiens il y a encore. On voit qu'à Gaza, les derniers sont en train d'être tués et enterrés dans les églises sous les bombes. Donc la question est très grande sur ce plan et on est dans une posture défensive. Et dans la diaspora, cela varie d'une communauté à l'autre. Certes, la diaspora arménienne est beaucoup plus organisée que la diaspora maronite ou que la diaspora melkite. Néanmoins, même sur le plan de la diaspora, il n'y a pas une vision globale ou même une vision claire de la manière dont ces chrétiens peuvent contribuer à faire de cet espace l'espace citoyen et humain dont ils ont rêvé. Ce que moi-même je souhaite, et je ne suis pas seul, nous sommes plusieurs à le penser, c'est de revenir à l'essentiel et déjà de mettre de côté ces postures défensives qui sont contradictoires avec l'essence du message chrétien. Le message chrétien qui ne se recroqueville pas dans la société et dans le monde, mais qui est là et qui va vers le monde. Les paroles du Christ étaient très fortes sur ce plan. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et ces paroles ne sont pas des paroles de communautés qui se défendent ou qui se réclament d'identité construite, pour ne pas dire illusoire, appartenant au passé et de toute façon dépendant des aléas de l'histoire. L'identité véritable vient de l'intérieur et c'est de l'intérieur que la terre se renouvellera et renaîtra.
Est-ce que vous connaissez des intellectuels d'autres confessions ? Je pense même à des intellectuels, des jeunes intellectuels ou des doctorants musulmans qui seraient d'origine libanaise comme vous ou d'origine syrienne, disons ces pays du Levant, qui réfléchissent aussi comme vous. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à enclencher une production en exil d'un projet pour demain, pour le Liban et pour
en exil et sur place. Je maintiens mes liens avec le Liban où je me rends 3 ou 4 fois par an, j'ai bien sûr des interlocuteurs et des interlocutrices avec qui j'échange de ces questions. Ce ne sont pas seulement des chrétiens des différentes communautés, de toutes les communautés, mais ce sont aussi des musulmans d'obédience sunnite, d'obédience chiite, d'obédience soufie, avec qui le dialogue est établi. Ces gens-là sont au Liban, sont en Irak, sont en Syrie, sont en Égypte. Et nous avons cette même pensée, et ce que je constate de plus en plus, c'est que plus les uns et les autres se rapprochent de la source, plus ils se rapprochent les uns des autres, à tel point que parfois, avec des collègues musulmans, je ne vois presque pas de différence, ou je n'en vois pas, lorsque nous regardons dans le même sens, qui est celui de l'origine. Une origine qui se donne avec grâce, avec générosité, à tous les hommes, quels qu'ils soient. J'ai d'espoir. Je sais qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce contexte morose, les gens ont tendance à dire « je suis déprimé, je suis pessimiste, je ne sais plus comment faire ». Je trouve que ces postures sont contradictoires avec l'essence même de la foi chrétienne, mais avec l'essence même de toute foi qui croit en un Dieu vivant, qui se donne sans arrêt. Je crois que dans cette obscurité actuelle, il y a encore plus à donner que dans les périodes de paix, ou dans les périodes qui sont moins compliquées.
Quelques mots sur l'Institut chrétien d'Orient que vous avez fondé et que vous dirigez. Dites-moi un petit peu quel est le bilan après. Nous vous avions reçu alors que vous alliez justement lancer votre première saison académique. Quel est votre public et quels sont les objectifs que vous avez à moyen et long terme justement pour cette transmission de savoir ?
Nous sommes dans notre 4e année. Et dans cette année, nous avons jusque-là accueilli 150 étudiants, mais il y a encore le second semestre qui vient de démarrer. Mais les inscriptions sont toujours possibles. Là, je fais mon devoir de directeur. Nous avons 2 objectifs principaux à l'Institut chrétien d'Orient, qui est un institut d'enseignement supérieur, ayant comme objet d'étude les chrétiens d'Orient et leur environnement, donc l'islam, le judaïsme et toute la complexité du Proche-Orient dans ses rapports aussi avec l'Occident. Nous avons comme objet l'étude scientifique des chrétiens d'Orient à partir d'un point de vue pluridisciplinaire. Nous sommes en train de signer un accord académique avec l'Université catholique de Lille qui nous permettra, à partir de l'année prochaine, la cinquième année, de délivrer des diplômes qui iront du certificat jusqu'au doctorat, en passant par les DU et les maîtrises. Et notre autre objectif, c'est que nous ne sommes pas neutres et nous avons comme but de contribuer à la paix, au dialogue, à la diversité. Nous avons comme but de créer un monde meilleur. Nous avons besoin de savoir pour le faire, d'où l'étude académique sérieuse de tout ce qui concerne les chrétiens d'Orient. Mais ce savoir n'est pas un savoir qui reste dans les bureaux, qui reste dans les livres. C'est un savoir qui est mis à disposition pour tout acteur, pour toute personne qui veut s'engager pour apporter de la lumière ou quelque chose de meilleur dans le monde actuel où nous sommes.
Alors ce sont des enseignements qui sont en ligne, donc vous touchez des étudiants qui sont dans le monde entier. Est-ce que vous arrivez justement à capter ce besoin de connaissances qui vient du Proche-Orient ?
Tout à fait. La création de l'Institut chrétien d'Orient montre à quel point il y avait un besoin de connaître les chrétiens d'Orient. Il ne faut pas oublier que dans l'imaginaire chrétien français aussi, lorsqu'on regarde vers l'Orient, on regarde vers les origines. Et c'est quelque chose qui a accompagné la France durant plusieurs siècles. On pourra remonter jusqu'aux croisades ou même au-delà. Nous avons ressenti ce besoin qui se manifeste dans toutes les catégories. Nous avons des étudiants qui sont envoyés d'autres universités, qui suivent notre parcours. Ils sont par dizaines. Nous avons des retraités, des politiques, des engagés, des militants, des sympathisants, des curieux, des non-chrétiens qui assistent à nos activités. Voilà, c'est une panoplie qui est très riche et qui touche à plusieurs pays. Nous avons eu jusque-là des étudiants d'une douzaine de pays. Le fait que nos cours soient en ligne et que nous offrions service replay encourage les gens. Quand ils ne peuvent pas être au cours au moment de l'enseignement, ils peuvent le revoir après en différé.
Nous évoquons avec vous, Antoine Fleffel, l'imaginaire des chrétiens d'Orient. J'aimerais avoir un point de vue un peu plus contemporain sur ce qui pourrait être la littérature aujourd'hui dans le monde arabe. Est-ce qu'il y a des auteurs particulièrement qui vous marquent ? Est-ce qu'il y a de la poésie ? Est-ce qu'il y a un cinéma ? Est-ce que vous sentez un petit peu vibrer ce besoin de culture ?
Dans les milieux de jeunesse, indubitablement, j'ai la chance, du fait de mes enseignements à Beyrouth tous les ans, de rencontrer des jeunes de plusieurs pays arabes, des Syriens, des Égyptiens et des Irakiens surtout, et bien sûr des Libanais. Et je vois à quel point ils sont sensibles à cette expression artistique et de leur réalité existentielle et de leurs aspirations. Et l'expression dans des romans, dans des poèmes, voire dans des courts-métrages, est quelque chose qui n'est pas rare du tout. Et c'est un fait qui est touchant. Ce n'est pas anodin d'avoir cela. Si nous remontons au XIXe siècle, cette période très riche pour les chrétiens d'Orient, on parle de la Nahda, donc de la Renaissance arabe. C'est elle qui, par la suite, s'est manifestée en nationalisme arabe, créé par les chrétiens dans son premier temps. Comment s'est faite cette renaissance, cette Nahda, qui a permis aux chrétiens d'Orient d'avoir une certaine conscience politique et culturelle de même ? Elle s'est faite à travers la littérature.
Nous sommes à quelle époque ?
Au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle. Bon, la Nahda, ça dépend comment on la situe. On parle de 1828, pardon. On parle de Tahtawi, qui a été envoyé par le Khedive en France, pour examiner la démocratie telle qu'elle se passait. Donc, encore une fois, dès qu'on parle des chrétiens d'Orient et d'un accomplissement, on voit comment l'Orient et l'Occident se rencontrent et comment chacun analyse les choses et les assume et les exprime à sa manière. Et lorsque ces chrétiens ont commencé à se positionner d'une manière plus objective et plus soutenue dans la société, dans une période où ils accédaient dans différents contextes de l'Empire ottoman à la citoyenneté, ils ont réformé la langue. Ils lui ont donné une beauté, ils ont épuré la langue arabe. Ils n'étaient pas les seuls, ils l'ont fait avec plein d'auteurs musulmans aussi. Et ils se sont exprimés dans la littérature, ils se sont exprimés dans la poésie. Et d'ailleurs, nous parlions tout à l'heure de cette construction des identités, pour ne parler que l'identité phénicienne qui me concerne d'une manière directe, puisque je suis libanais d'origine, même celle-ci a été créée autour de toute une littérature poétique. On la trouve dans la littérature du grand Saïd Aql, mais on la trouve aussi chez d'autres grands personnages qui chantaient la grandeur d'Adonis, d'Astarté, toutes ces belles figures de la mythologie phénicienne. Donc oui, aujourd'hui, nous retrouvons cette aspiration à la beauté, c'est une aspiration esthétique. Peut-être que le contexte qu'il y a autour n'apporte plus beaucoup de beauté, et lorsque l'extérieur n'apporte plus beaucoup de beauté, on va vers la source qui apporte la beauté, et donc on va à l'intérieur et on puise là-dedans. Et je crois que la poésie, j'apprécie beaucoup tout ce que dit Heidegger sur la poésie en tant que création, en tant que le langage le plus pertinent pour exprimer l'être, pour exprimer ce qui est normalement inexprimable par la raison. Oui, cela existe au Proche-Orient. Malgré tout, je crois qu'il faut garder espoir.
Est-ce que vous ne craignez pas que ces identités, avec leurs imaginaires spécifiques, se noient ou soient complètement diluées dans les sociétés occidentales, ces sociétés d'exil, ce qui certes apporte la paix, la prospérité d'une certaine manière, mais peut aussi conduire à une fin des cultures?
Premièrement, ces identités doivent être réévaluées. Je constate dans plusieurs milieux des différentes diasporas à quel point il y a un recentrement identitaire. Cela, on le connaît bien dans les milieux arméniens, dans les milieux assyro-chaldéens, pour des raisons historiques évidentes, mais on le voit aussi chez les maronites, on le voit aussi chez les melkites. Et cette identité peut prendre différents aspects. Ça peut être « je suis arabe », par référence au nationalisme arabe et à tout ce qui a suivi. Ça peut être « je suis libanais, je suis phénicien », elles sont là. Mais elles sont très dangereuses, ces identités, parce qu'elles sont construites, elles sont hors contexte, elles sont en dehors du temps même. Donc premièrement, je crois qu'il faut réévaluer ces identités, il faut les questionner. Est-ce que j'ai peur que ces identités se diluent en Occident? Avec la tournure actuelle que prend le monde, nous sommes de plus en plus vers un recentrement identitaire. Nous le constatons malheureusement à travers les conflits et à travers les problèmes économiques auxquels nous faisons face. Je crois que en diaspora et sur place, la grande question qui devrait se poser sur l'identité n'est pas sur l'identité qui est construite, mais sur l'appel que reçoivent ces chrétiens, l'appel qu'ils ont de transformer le monde. Et c'est là que la question de l'identité se pose. Et c'est une personne qui la pose, c'est celui qui est ressuscité et qui avait dit à ses disciples « Et pour vous, qui suis-je ?»
Antoine Fleifel, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin.
Merci beaucoup Sébastien.
Très belle rencontre. Je remercie Louise André pour la réalisation de cette émission, Claire Poinsignon et Claire Levasseur pour la technique. Nous retrouvons maintenant Solae, le service protestant. Bon dimanche.
Yeah. La 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 la